Quiconque a suivi notre œuvre pendant ces trois douloureuses années qui viennent de s'écouler a pu facilement reconnaître que si nous sommes restés toujours fidèles à notre résolution d'absolue impartialité et à notre action de bienfaisance, nous n'avons pas cessé non plus d'exhorter peuple et gouvernement belligérants à redevenir frères, bien que la publicité n'ait pas été donnée à tout ce que nous avons fait pour atteindre ce très noble but. Extrait de la note du pape Benoît XV, le 1er août 1917.
Les fenêtres de l'histoire avec Philippe Faureau.
Le 3 septembre 1914, le cardinal Giacomo della Chiesa est élu pape sous le nom de Benoît XV. Or, en ce début du mois de septembre 1914, la guerre fait rage depuis déjà un mois. Effectivement, c'est à partir du 30 juillet et 1er août 1914 que les alliances ont fonctionné à plein et ont donc provoqué le premier conflit mondial que peut-être encore tous les belligérants n'ont pas conscience qu'il sera aussi dur et aussi long. Le pape Pie X, malade, avait appelé le 2 août 1914 les belligérants à essayer, malgré le début des combats, à trouver une solution pacifique au conflit qui semblait vraiment dégénérer. Mais le pape est mort le 20 août et donc il a fallu organiser un conclave, d'où est issu le cardinal Giacomo della Chiesa. Celui-ci était d'ailleurs lui-même de formation diplomate. Il avait travaillé au nom de la diplomatie vaticane avant d'être nommé archevêque de Bologne en 1907 et créé cardinal au mois de mai 1914. Dès le 8 septembre, c'est-à-dire quelques jours à peine après son élection, Benoît XV avait fait une première exhortation apostolique pour demander à cesser les combats. Puis le 1er novembre, alors que ceci était non seulement loin de se terminer, mais même enclin à se poursuivre dans des conditions tragiques, avait publié l'encyclique Ad Beatissimi Apostolorum, où il demandait, là encore, que la chrétienté, qui était en train véritablement de se déchirer, eh bien, fasse preuve de raison et en revienne à la paix, condamnant l'inutile boucherie. Puis l'appel à la Noël 1914 à une trêve avait été plus ou moins écouté. Si la Grande-Bretagne, l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie avaient accueilli de manière, disons, polie et convenable l'appel à la trêve du pape Benoît XV, la France et la Russie, pour leur part, s'étaient montrées beaucoup moins enclines à accepter la proposition pontificale. Et il est vrai qu'il y avait bien eu, le jour de Noël, des cas de fraternisation entre belligérants, entre hommes et soldats de terrain, mais il n'est pas évident que ce soit dû à l'influence de l'appel de Benoît XV. Celui-ci avait d'ailleurs connu une nouvelle déconvenue. En effet, à partir du mois de janvier 1915, l'Italie avait engagé des négociations avec le gouvernement de Vienne pour essayer de voir s'il n'était pas possible d'échanger des territoires de l'Empire des Habsbourg, peuplés d'Italiens, contre le maintien de la neutralité italienne. Finalement, ces négociations n'avaient pas abouti et malgré les efforts du pape Benoît XV pour que son propre pays, l'Italie, reste en paix, eh bien, celle-ci avait déclaré la guerre à l'Empire austro-hongrois le 24 mai 1915. Donc, effectivement, le propre pays dont était originaire le pape entrait dans le conflit aux côtés de la Grande-Bretagne, de la France et de la Russie. De ce point de vue-là, donc, le pape Benoît XV avait connu indéniablement beaucoup d'échecs. Par contre, il avait organisé toute une série de réseaux caritatifs pour essayer de soutenir à la fois les populations civiles subissant les affres du conflit, mais également il avait demandé à ses nonces apostoliques de visiter les camps de prisonniers pour voir exactement dans quelles conditions les prisonniers belges, français, allemands, autrichiens, italiens étaient traités. Et par exemple, son nonce à Munich, Monseigneur Eugenio Pacelli, le futur Pie XII, a été à plusieurs reprises dans des camps de prisonniers en Allemagne visiter les soldats en captivité. Donc il y a eu une véritable aide et soutien à la fois moral et matériel de la part de la diplomatie pontificale. Le problème majeur contre lequel le pape Benoît XV se heurte finalement, c'est que si les belligérants acceptent l'idée de la paix, c'est une paix victorieuse. C'est-à-dire que, à la fois du côté des empires centraux que du côté de la Triple Entente, on parle bien d'une paix, mais une paix qui serait issue d'une victoire militaire. De ce point de vue-là, le pape Benoît XV se heurte aux intérêts nationaux, aux intérêts des nations qui priment indéniablement sur l'idée d'une Respublica Christiana qui pourrait essayer d'atteindre la paix. La victoire au chantant nous ouvre la barrière, la liberté guide nos pas. Et du nord au midi, la trompette guerrière a sonné l'heure des combats. Comme les ennemis de la France, toi ivre de sang, c'est au cours de l'année 1917 que Benoît XV va tenter un dernier espoir pour essayer de trouver des conditions d'un retour à la paix. Il s'agit de la note publiée le 1er août 1917 et qui s'adresse à tous les chefs des peuples belligérants. Quel est l'état d'esprit de cet important document pontifical? Je cite le pape Benoît XV. « Nous nous sommes proposés trois choses entre toutes. Garder une parfaite impartialité à l'écart de tous les belligérants, comme il convient à celui qui est le père commun et qui aime tous ses enfants d'une égale affection. Nous efforcer continuellement de faire à tous le plus de bien possible, et cela sans exception de personne, sans distinction de nationalité ou de religion, ainsi que nous le dicte aussi bien la loi universelle de la charité que la suprême charge spirituelle à nous confiée par le Christ. Enfin, comme le requiert également notre mission pacificatrice, ne rien omettre, autant qu'il était en notre pouvoir, de ce qui pourrait contribuer à hâter la fin de cette calamité, en essayant d'amener les peuples et leurs chefs à des résolutions plus modérées, aux délibérations sereines de la paix, d'une paix juste et durable. » Voici donc l'état d'esprit du pape lorsqu'il publie cette note. Et effectivement, il fait des propositions, mais vous savez, face à une guerre qui dure depuis maintenant 3 ans, eh bien, les opinions publiques ne sont pas prêtes peut-être à entendre aisément les propositions du pape. Il propose par exemple que l'on rende la Belgique à nouveau indépendante, que l'Alsace-Lorraine puisse éventuellement être rendue à la France, que l'on puisse envisager de créer une Pologne indépendante. Mais il n'aborde pas par exemple la question des territoires italophones de l'Empire austro-hongrois, parce que certains lui ont reproché d'avoir finalement des sympathies pour la dernière des très grandes monarchies catholiques en Europe, à savoir la monarchie des Habsbourg. Et il est vrai que l'accueil qui est fait à cette note du 1er août 1917 est au plus un rejet poli, au moins un mépris affiché. À Berlin, on parle du pape français, mais à Paris, on accuse Benoît XV d'être le pape Bosch, c'est-à-dire que cette volonté d'équidistance entre les deux camps le fait finalement mépriser et par les uns et par les autres. Et au sein même du monde catholique, l'accueil n'est pas exceptionnel. Si vous prenez par exemple le cardinal Mercier, primat de Belgique, qui est une des âmes de la résistance belge face à l'occupation allemande. Il reproche à Benoît XV de ne pas avoir clairement dit que l'agresseur de la Belgique était l'Allemagne et que l'on ne pouvait pas exactement tenir la balance totalement équilibrée entre l'agresseur et l'agressé. De même en France, bien des milieux catholiques qui sont engagés dans l'Union sacrée accueillent avec beaucoup de tiédeur, même une tiédeur polie, les propos du pape. À l'automne 1917, alors que la note est désormais bien connue, il y a une prédication du père Sertillange à Notre-Dame de Paris, en présence du cardinal archevêque Monseigneur Hamet. Eh bien, Sertillange, du haut de la chaire de Notre-Dame, dit « Très Saint-Père, nous ne pouvons pas ». Sous-entendu, nous ne pouvons pas obéir à votre demande parce que celle-ci, finalement, est beaucoup trop favorable aux thèses allemandes, ou en tout cas jugée comme telle de la part des Français. Donc, vous le voyez, le monde catholique accueille de manière extrêmement modérée, c'est le moins que l'on puisse dire, les propositions de Benoît XV. Et celui-ci se persuade dès lors que finalement, il ne sera plus entendu avant que l'un des camps triomphe véritablement sur l'autre. Il accueille avec plaisir les propositions d'une paix juste formulées par le protestant Wilson, président des États-Unis, mais il convient de remarquer que finalement le Saint-Siège ne sera même pas convié à la conférence de la paix de Paris et à la demande expresse d'ailleurs du gouvernement italien qui ne voulait pas prendre le risque que l'on repose éventuellement la question romaine qui était une des questions pendantes entre l'Église et l'Italie depuis l'unité. On peut dire ainsi que Benoît XV a été un prophète qui a beaucoup parlé dans le désert.